BFM Business, midi, l'heure H.
Présenté par Edwige Chevrillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure H. On va faire un petit peu le grand écart hein, dans l'heure H, puisque je recevrai dans un instant celui qui, pour qui le mot réformiste est un gros mot, François Omril. François Omril, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes président de la CFE-CGC. On va parler retraite et puis de votre congrès qui se tient mercredi et jeudi prochain à Deauville, comme quoi. Ensuite, c'est Agnès Verdier-Molinier, la directrice générale de l'IFRAP, la libérale Agnès, qui viendra nous expliquer pourquoi, en fait, il n'y a pas du tout de baisse d'impôts pour les entreprises. Et puis l'implacable diagnostic, pardon, c'est ce qu'elle publie. Aujourd'hui, elle va nous en livrer les grands chiffres dans quelques instants, en exclusivité. Puis ensuite, c'est celui presque qui prend la place de Karl Marx, en l'occurrence, c'est Thomas Piketty qui sera avec nous. Il publie Capital Idéologie, son nouvel opus de 1132 pages. Après son livre précédent, vous savez, il avait fait un carton avec pub de 2 millions et demi d'exemplaires vendus. Mais tout de suite, je laisse la parole à Thomas.
Je serai plus court que Thomas Piketty.
J'espère bien, Thomas Asportas. Thomas Asportas, l'essentiel de l'info, bonjour.
Bonjour Edwige, bonjour à tous. Et c'est peut-être une semaine décisive qui s'ouvre sur le front du Brexit à 25 jours maintenant de la deadline de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique a réaffirmé qu'il ne reportera pas la date du divorce qu'il a fixé au 31 octobre. Il demande maintenant aux Européens d'étudier sérieusement ces dernières propositions. Les deux camps se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles pour reprendre les négociations. Emmanuel Macron propose de faire un bilan en fin de semaine. Lui aussi veut que le tempo s'accélère à quelques jours du prochain Conseil européen de la mi-octobre. Au Portugal, en revanche, la situation est beaucoup plus claire après les dernières élections législatives, puisque le Premier ministre socialiste sortant, António Costa, a largement remporté le scrutin. Il a même renforcé sa position au Parlement. Il n'a pas pour autant obtenu une majorité absolue, ce qui veut dire que le Premier ministre portugais va proposer de reconduire la coalition au pouvoir qui mène depuis 2015 entre les socialistes et les communistes. Et puis les tensions commerciales vont revenir sur le devant de la scène, puisque la Chine et les États-Unis vont se retrouver jeudi et vendredi pour un nouveau round de négociations. Mais d'après Bloomberg, il ne va pas falloir s'attendre à des miracles puisque la Chine aurait désormais considérablement réduit le champ des sujets sur lesquels elle veut négocier avec les États-Unis. Les Chinois notamment ne voudraient plus entendre parler d'une réforme de leur politique industrielle. Et puis vous le savez, s'il y a bien un pays qui souffre de ces tensions commerciales, une économie tournée vers l'export, c'est l'Allemagne. Et on a un nouveau chiffre qu'il confirme ce matin, ce sont les commandes à l'industrie qui ont reculé de 0,6% au mois d'août. C'est deux fois plus que ce que craignaient les économistes. Et c'est un chiffre de plus pour ceux qui anticipent une contraction de l'économie allemande au troisième trimestre. Dans l'actualité des entreprises et d'après le Financial Times, ça va mal chez HSBC. HSBC qui s'apprêterait à supprimer 10 000 postes en plus de 4 000 suppressions de postes déjà annoncées il y a à peine deux mois. HSBC a un nouveau patron depuis début août qui veut drastiquement réduire les coûts. Et l'hécatombe se poursuit donc pour les banques en Europe après les annonces de suppression chez Deutsche Bank, Commerzbank ou encore Société Générale. A noter Edwige que Jean-Pierre Mustier, le directeur général de la banque italienne UniCredit et le président de la Fédération bancaire européenne sera votre invité mercredi matin à 8h15 dans Good Morning Business.
Oui, lui qui veut supprimer 10 000 personnes hein, aussi.
Oui, effectivement. Hécatombe dans les banques européennes. Et puis pour finir, le climat social sera toujours aussi tendu et toujours aussi tendu. On verra ce que réserve l'avenir chez General Motors qui entre quand même dans sa quatrième semaine de grève. 50 000 salariés du groupe sont à l'arrêt depuis la mi-septembre. GM ne produit plus de voitures aux États-Unis. Cette grève coûterait au groupe jusqu'à 100 millions de dollars par jour. BFM Business, midi 3. On file sur les marchés à la mi-journée. Le CAC 40 est à l'équilibre, recule à peine de 0,13% à 5 481 points. L'euro-dollar est stable aussi. On perd 0,11%. 1 euro s'échange pour 1,0972 $.
Merci Thomas. Rendez-vous 12h30. Pour l'instant, le rendez-vous est pris avec François Omril qui est en studio avec nous, le président de la CFE-CGC.
BFM Business, l'heure H, la question du jour.
Question du jour, François Omril, il y en a beaucoup. Hein. Merci d'être là parce que vous venez de chez vous, vous venez de savoir. Il faut dire que vous avez votre congrès, c'est important, congrès mercredi et jeudi. Alors, vous avez eu cette expression qui avait fait bondir un de mes invités, Laurent Escure, le président de l'UNSA, hein, cette fois-ci. Vous avez dit le mot réformisme, c'est un gros mot. Ça veut dire quoi? Vous trouvez vraiment que vouloir réformer un pays, c'est un gros mot?
Non, c'est pas tout à fait ce que j'ai dit et je vous remercie de me donner l'occasion de préciser ça. J'ai dit simplement que le terme de réformiste, c'est une assignation à résidence politique pour des partenaires sociaux que nous sommes.
Ça veut dire quoi ?
Auquel on enjoint finalement d'être toujours pour le projet de réforme que prépare et que veut imposer le gouvernement, quel qu'en soit son contenu. Et moi, depuis 3 ans que je suis président de la CFE-CGC, je veux m'extraire de cette case dans laquelle le pouvoir veut nous tenir en nous empêchant finalement de nous exprimer sur le bien fondé, la nécessité d'une réforme. Par contre, bien sûr, nous sommes toujours pour l'examen d'une possibilité, d'une réforme. Nous sommes pour l'évolution de la société. Mais nous nous mettons à distance d'une assignation politique qui nous paraît trop forte et qui nous enlève notre liberté de nous exprimer.
Mais alors, François Aubry, on a l'impression, vous l'avez du reste pointé du doigt, ce mot-là, cette expression-là, en tous les cas, elle visait plutôt la CFDT. La CFDT et Laurent Berger, hein, son secrétaire général, on voit bien que bah, pour eux, d'accord, ils sont pour une réforme des retraites, mais quand ils ne sont pas que là, il y a des lignes rouges. On l'a bien vu sur l'âge pivot, sur l'allongement de durée de cotisation, etc. On peut dire qu'on peut accompagner une réforme et en même temps avoir des lignes rouges.
Mais tout le monde a des lignes rouges. Moi, je n'attaque bien sûr aucun syndicat à travers ce que je souhaite.
Laurent Berger l'a
moi-même.
Pas compris, hein, comme Laurent Esquieu, en l'occurrence.
Bah, écoutez, je ne sais pas. On n'a pas eu l'occasion d'en discuter tous les deux. Ah, mais en ce qui me concerne, ce n'est pas nouveau. Hein. Je vous dis, ça fait 3 ans que j'ai posé ça comme étant un principe. Rappelez-vous, il y a 3 ans, comment le débat politique était extraordinairement clivé. C'était la loi El Khomri, c'était les manifestations. Il y avait d'un côté le camp des réformistes. En tout cas, c'est ce que le pouvoir politique voulait indiquer à l'ensemble de la nation. Et de l'autre côté, ceux qui s'opposaient. Bah, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que, en l'occurrence, dans la loi El Khomri, et puis après, dans les ordonnances de travail qui ont succédé, eh bien, on peut penser qu'il est nécessaire, sur certains points, que le code du travail évolue, que les relations sociales évoluent, et que, par ailleurs, la réforme qu'on nous propose n'est pas une bonne réforme, et qu'on n'a pas forcément à y accéder, parce qu'on serait dans le camp des réformistes, tel que le pouvoir politique l'a défini.
Juste une question, puisqu'il y a votre congrès là, donc là aussi, je pense que, bah, il faut forcément. Bah, vous faites de la politique, quelque part, donc il faut bien forcer un peu le trait et qu'on en parle. La représentativité de la CFE-CGC, c'est quoi aujourd'hui? Et la prochaine jauge, elle est quand? Elle est bientôt?
Non, la prochaine jauge, elle sera, vous savez, dans la loi de 2008, c'est tous les 4 ans. Donc la dernière jauge, elle s'est clôturée à la fin de décembre 2016 et on a eu les résultats au mois de mars 2017. Notre organisation, elle a pas mal progressé puisqu'elle a progressé de 17% en progression intrinsèque. On est aujourd'hui la 4e organisation syndicale représentative de ce pays. On a une forte progression. La progression, semble-t-il, continue, en tout cas dans les entreprises qui nous renvoient leurs résultats. On a une progression en adhérents qui est de l'ordre de 2 à 3% par an depuis une dizaine d'années. Donc on n'a pas tellement à se plaindre de l'audience que l'on fait dans les entreprises et de l'audience que l'on fait au niveau de l'adhésion pour notre organisation syndicale.
Est-ce que vous avez un peu l'impression justement que les réformes qui sont mises en œuvre, en l'occurrence, bah c'est les cadres, les agents de maîtrise, votre cible hein, en l'occurrence, qui sont un peu les vaches à lait. C'est là, ils ont un peu plus d'argent que les autres et donc du coup, bah, on les taxe plus.
Alors ça, c'est très clair.
La réforme des retraites, l'assurance chômage, enfin on voit bien, c'est toujours eux qui payent l'addition.
Bah, tout à fait. Dans le cas de l'assurance chômage, il s'est passé quelque chose qui est quand même vraiment scandaleux, c'est-à-dire que la catégorie qui contribue le plus à l'équilibre du régime à travers les cotisations, les contributions qui sont assises sur les salaires, eh bien, ils ont été mis à l'écart des droits qu'ils accumulent dans un régime solidaire. Je l'ai déjà dit d'ailleurs devant vous. Aujourd'hui, c'est 10 milliards d'euros qui sont versés à la solidarité intercatégorielle par les catégories que je représente. Mmh. Et la dégressivité qui a été mise en place, elle est doublement scandaleuse parce que d'abord, elle stigmatise une population et en plus, on le sait, elle est inefficace sur le plan du retour à l'emploi. Il nous semble effectivement que là, pour le coup, le gouvernement, il a envoyé un très très mauvais signal vis-à-vis des populations que nous représentons, mais pas seulement. Tous les syndicats ont vocation à représenter les membres de l'encadrement. Et il se trouve que nous le faisons de façon spécifique dans le privé. Et donc c'est vrai qu'on a un discours très très adapté à cette population-là. Mais ce sont quand même des gens qui s'engagent dans l'entreprise, qui prennent des responsabilités, qui ne regardent pas toujours leurs horaires.
En même temps, là, vous connaissez l'argument qui a été mis en avant, en tous les cas par le ministre du Travail et aussi par le gouvernement, c'est de dire aujourd'hui, quand on est un cadre, on peut trouver un job extrêmement facilement. C'est-à-dire que le taux de chômage chez les cadres, il est quoi? Il est de l'ordre de 4%, même pas.
Oui, mais la moyenne, c'est personne. Je l'ai déjà dit. Entre un jeune cadre, jeune diplômé de 28 ans qui cherche du travail en région parisienne ou en région toulousaine, par exemple, et un cadre de 55 ans, anciennement directeur d'établissement ou responsable marketing qui se retrouve au chômage privé d'emploi et qui cherche, c'est bien normal, un emploi du même niveau que celui qu'il avait avant le chômage, c'est pas du tout la même problématique. Et donc, quand on raisonne à la moyenne, eh bien forcément, on raisonne de façon collective. Et s'agissant de la dégressivité, on impose une punition collective à des populations qui sont extrêmement variables.
Oui, d'accord. Donc, vous trouvez que les cadres, maintenant, ça suffit?
C'est pas nouveau, vous savez, quand le barème de l'impôt il a été revu en 2014, il me semble, ou en 2013, par la, ce qu'on a appelé la simplification des tranches, eh bien, les gens que je représente, pour certains, ils ont trouvé surprenant que leur impôt vienne à doubler quasiment d'une année sur l'autre. C'est-à-dire qu'il y a eu 18 milliards de prélèvements supplémentaires d'impôts sur le revenu, et c'est pratiquement 20% de la population qui les ont payés. Et dans le même temps, on supprimait l'impôt de solidarité sur la fortune. Vous voyez, il y a quand même parfois des signes que nous envoie le gouvernement que je trouve assez désagréable.
Oui, mais on reviendra beaucoup sur cette révolution fiscale avec Thomas Piketty d'ici une quinzaine de minutes, mais il n'en demeure pas moins qu'on voit quand même, c'est intéressant, la suppression de l'ISF et le remplacement par l'IFI a fait que les petits riches, entre guillemets, les petits riches, c'était eux qui étaient le plus taxés avec l'ISF et puis les grandes fortunes étaient le moins taxées. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. Donc, il y a une forme d'équité qui a été remise un peu dans le domaine, dans la famille des riches. On va dire.
Écoutez, les cadres sont pas riches, hein, vous savez.
Il y a certains cadres qui le sont.
Certains le sont, bien sûr. Ils ont en général travaillé pour ça. Et ils sont très très loin du niveau de revenus des milliardaires et des millionnaires. Donc
la réforme, elle va dans le bon sens.
Moi, je peux aller sur ce terrain-là. Moi, j'observe simplement que ceux qui sont le plus appelés à contribuer à la solidarité nationale, ce qui est une bonne chose. Moi, j'ai jamais dit le contraire. Simplement, il faut pas les priver de leurs droits. C'est tout. Hein, c'est normal qu'on soit, dès l'instant qu'on en a plus les moyens, qu'on soit contributeur net à la solidarité nationale. Mais c'est pas normal qu'on soit exclu des droits qu'on a contribué à constituer pour l'ensemble de la population.
Alors justement, ça fait lien avec la réforme des retraites. Ce que vous venez de dire, on peut l'appliquer à la réforme universelle, la réforme à points souhaitée par Emmanuel Macron, non ?
Écoutez, Emmanuel Macron, je ne sais pas très exactement ce qu'il souhaite, parce que ce que nous on observe, c'est que cette réforme, elle est inutile. Elle est inutile et elle est extrêmement dangereuse. Elle n'est pas justifiée sur le plan économique. Depuis 20 ans, on a fait des retraites qui ont coûté très très cher aux cotisants, parce qu'on a allongé la durée du travail. On a, pour certains, réduit le niveau des pensions.
On est obligé de le faire, dans le sens où vous voyez bien que le nombre d'actifs pour le nombre de retraités, il était diminué par deux ou par trois. Donc on est bien obligé de faire quelque chose.
En l'occurrence, là, je réponds non.
À part faire des bébés.
Mais je réponds non, absolument pas. C'est faux. Dans les années 50, le temps moyen que l'on passait en retraite, c'était 7 ans. Et on a évolué de façon continue de 7 ans à 20 ans. Aujourd'hui, l'âge moyen du temps passé à la retraite, il est de 20 ans et il n'évolue plus depuis une bonne dizaine d'années. On a donc décidé, au début des années 2000, que le progrès devait s'arrêter. D'une certaine façon, on a décidé que la croissance, l'économie, la croissance de l'économie, le progrès que l'ensemble de la nation contribue à constituer, on ne le reversait pas aux salariés, on ne le reversait pas à l'ensemble des gens qui constituent justement ce progrès-là.
Oui, mais je vois pas le lien là, en l'occurrence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous voulez qu'on dépasse le curseur ? Vous voulez que quoi ? J'ai pas compris la finalité de votre raisonnement, François Aumryl.
Mais si, le raisonnement, on nous dit depuis 20 ans que c'est parce qu'on vit plus longtemps qu'il faut travailler plus longtemps. Moi, je dis c'est faux. C'est faux parce que le mouvement général de progrès de la société qui fait qu'on vit de plus en plus longtemps, c'est un mouvement qui s'est accompagné aussi d'une rétribution au moins au début de la valeur ajoutée économique vers ceux qui la constituent, et que désormais ce mouvement s'est arrêté au début des années 2000 et qu'on commence petit à petit à régresser valeur ajoutée n'est pas correctement rétribuée au travail, elle va beaucoup trop au capital. Voilà ce que ça veut dire. D'ailleurs, au passage, vous allez avoir un invité tout à l'heure qui, je pense, va vous démontrer à peu près la même chose.
Oui. Enfin, en même temps, ça va être intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup d'idéologie, justement, puisque c'est même le titre de son livre, hein, Capital et idéologie.
Tout à fait.
Alors, moi, je voudrais qu'on revienne sur la réforme des retraites. Est-ce que, malgré tout, vous avez été un peu rassuré, parce qu'on sent que le gouvernement, là, il va prendre la réforme, elle va se faire à la lenteur d'un train de la SNCF, je veux dire, ou d'un escargot.
Le temps peut être effectivement un bon paramètre pour ne pas faire n'importe quoi. Ouais. Beaucoup de réformes qu'on a faites par le passé. Disons que moi, je serais rassuré dès l'instant que j'aurai la preuve que les partenaires sociaux, ils ont été correctement écoutés. C'est un peu le problème qu'on a eu en cette rentrée, et notamment depuis 2 ans de ce gouvernement, c'est que on est toujours convié à donner notre avis sur tout un tas de sujets, sur tout un tas de sujets, et en vérité, on constate qu'on n'est pas vraiment écouté. Donc le problème, il est là. Nous, on a dit à la CFE-CGC dès le début qu'on n'était pas opposé à regarder et à contribuer à la réflexion sur un système à points.
J'imagine, vous avez suivi le président à Rodez. On a bien vu, on a vu encore dans le journal du dimanche ce week-end, le Premier ministre dire qu'on prendra absolument tout le temps nécessaire. Donc là, on est déjà à 2040. À mon avis, on va finir, à 2050, au train où vont les choses.
Écoutez, de toute façon, une réforme qui est aussi structurante, si tant est qu'elle fasse, forcément, elle aura un impact très très loin dans le temps, et ça, c'est pas tellement un problème. On est suffisamment bien armé pour y faire face. Moi, ce que je conteste, c'est qu'on la base sur ce qu'on appelle le principe d'équité. D'ailleurs, vous-même, vous l'avez rapporté. Mm-hmm. Je pense que tout ça se discute. À chaque fois que le gouvernement vient vers nous, vers une réforme qu'on nous qu'on peut considérer comme régressive, il l'a fait toujours au nom de l'équité. Et moi, je vous pose la question, s'agissant par exemple de l'âge et de la durée de cotisation.
Ouais.
On dit toujours, la durée de cotisation, c'est ce qu'il faut prendre en compte. Moi, je dis pourquoi pas, mais ça se discute quand même un petit peu. L'âge auquel on peut prendre sa retraite, ça compte aussi. Quelqu'un qui part en retraite à 66 ans, parce qu'il a commencé à travailler à 23, à 24, à 25 ans, c'est-à-dire parce qu'il a fait plus d'études que les autres, eh bien, il aura au final moins de retraite que les autres. Donc, vous voyez bien que la durée de cotisation, elle compte tout autant que l'âge. Et nous, on propose à la CFE-CGC que soit pris en compte dès l'instant qu'on retiendrait la durée de cotisation, qu'on retienne aussi l'âge de départ comme étant un paramètre permettant de calculer et d'évaluer le niveau des pensions au moment où on prend sa retraite.
Oui, on voit, rien n'est figé. Quand a été redit par le Président et le Premier ministre, rien n'est figé. Donc, moi, ça vous rassure. Dites-moi, là, juste, c'est pour quand l'égalité, la parité, justement, puisqu'on parle de ça, mais homme-femme au sein de la CFE-CGC, qui est un syndicat majoritairement et très majoritairement masculin?
Alors, tout dépend de quel point de vue on se place. Si on regarde la répartition de nos adhérents, on est à peu près à 60% d'hommes et à 40% de femmes. Et la parité dans nos instances, elle évolue dans le bon sens, mais beaucoup trop lentement.
Vous êtes à combien ? 90, même pas 90, 900.
Là, si j'en juge aux instances actuelles et si j'en juge au bureau qui va devenir à notre congrès, mais il faut pas en préjuger puisqu'il faut laisser le congrès s'exprimer puisqu'il va voter, on évolue plutôt positivement. Mais je veux vous dire qu'effectivement, je considère qu'on n'évolue pas suffisamment rapidement sur cette question-là.
Merci beaucoup François Omri, le bon congrès en l'occurrence. Hein.
Merci à vous.
Donc le premier, vous êtes le seul candidat à votre succession, donc
exact, oui.
Toutes les chances d'être élu. Merci beaucoup François Omri d'avoir été avec nous. Dans un instant, c'est Agnès Verdier-Molinier, directrice de l'IFRAP. Alors elle est un petit peu plus libérale que vous. On reviendra sur les impôts des entreprises. En fait, c'est une grande arnaque, hein, selon elle, la baisse des impôts des entreprises. On voit ça tout de suite.
BFM Business, le club de l'heure H.
Club de l'heure H avec Agnès Verdier-Molinier, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, directrice de l'IFRAP. Alors si vous êtes là, c'est que vous avez publié une enquête qui commence à faire un petit peu le buzz. Hein. Vous allez un peu nous en révéler les tenants et les aboutissants. Où vous dites, voilà, je cite, fiscalité des entreprises, l'implacable diagnostic. Et puis alors, vous dites, lorsqu'on parle de baisse de l'impôt pour les entreprises, c'est un grand leurre. J'ai un petit peu de mal à vous suivre, mais je compte bien sur vous pour nous démontrer pourquoi c'est un grand leurre et pourquoi c'est faux.
D'abord, on s'est posé la question, est-ce qu'avec le CICE, le pacte de responsabilité, vous en souvenez,
Edwige, 40 milliards,
combien de fois avons-nous prononcé ce chiffre en disant mais c'est la première fois qu'on fait une baisse d'impôt aussi importante pour les entreprises, etc. Entre le CICE, donc qui porte évidemment sur l'impôt sur les sociétés, et de l'autre côté, les charges entrepreneuriales sur les salaires. Et puis alors, nous, on a pris les chiffres tout simplement, on a regardé d'année en année si ça baissait, si véritablement, que ce soit en valeur ou en point de PIB, eh bien, on retrouvait cette baisse entre 2012 et 2018.
Voilà. Alors.
La réalité, c'est que les prélèvements obligatoires payés par les entreprises, ils sont passés de 390 milliards à 431 milliards. Alors, vous allez me dire, Edwige, mais oui, mais c'est pas intéressant en valeur absolue. Ce qui intéresse tout le monde, c'est le pourcentage du PIB, pour voir si véritablement ce pourcentage du PIB a énormément baissé ou pas. Bon. Et alors là, on passe de 18,7% du PIB payé en impôts par nos entreprises en 2012 à 18,4%. Alors vous allez me dire, oui, il y a une petite baisse. Oui,
petite baisse, oui.
Ça fait pas 40.
Question et réponse, vous avez raison.
0,3 points de PIB, ça fait pas 40 milliards. Hein. On est loin du compte. Ça nous a intéressé parce qu'on a aussi fait la comparaison avec les pays de la zone euro. Parce que, je ne sais pas si vous en souvenez, enfin si, tout le monde s'en souvient, le rapport Gallois, l'idée qu'on avait un problème de compétitivité fiscale.
Ouais, notamment sur les impôts production, c'est là-dessus que c'est...
Notamment sur les impôts de
production, et les baisses de charges, vous avez raison.
Et l'idée, tout de suite, ensuite, de faire quelque chose en la matière. Alors, on a regardé ce qui s'était passé avec les pays de la zone euro, l'écart entre la fiscalité payée par nos entreprises françaises et la fiscalité payée par les entreprises de la zone euro. Souvent, on compare avec l'Allemagne, alors parfois, on dit, bah oui, mais l'Allemagne, c'est pas comparable pour ceci, pour cela. Donc, nous, on a dit, voilà, on prend la zone euro et on a une centaine de milliards d'écart. Alors, il y a quelques années, avant le CICE et le pacte de responsabilité, c'était déjà une centaine de milliards d'écart et c'est toujours une centaine de milliards d'écart. Donc ce qu'on trouve comme évolution de la fiscalité quand on prend les recettes payées par nos entreprises, eh bien on trouve qu'en fait il y a eu une stagnation du poids de la fiscalité sur nos entreprises.
Où est le chose-trappe?
Bah non, c'est vrai qu'on a vu baisser un petit peu la recette d'impôt sur les sociétés. Hein. En gros, on était à 42 milliards, on est passé à une trentaine de milliards. Mmh. Donc voilà, il y a une petite baisse, mais pas une baisse de 20 milliards hein, déjà. Hein, donc voilà. Et puis, on voit que les impôts sur les produits, les impôts sur la production ont augmenté. Parce que les impôts sur la production, c'est 7 milliards d'augmentation sur la période. Oui. Hein. Les impôts sur les produits...
Est-ce que vous voulez dire, parce que ça rejoint un petit peu ce que disait Patrick Martin, numéro 2 du MEDEF, à ce même micro, qui disait, en fait, c'est à propos du budget 2020, hein, vous voyez. Oui. Mais d'accord, on nous dit qu'il y a une baisse de l'impôt sur les sociétés, notamment pour les un petit peu moins rapide oui, pour les entreprises. Mais enfin, il y a quand même une ligne directrice qui va dans le bon sens. Et il dit oui, d'accord, ok, mais en même temps, on nous augmente des tas de petites taxes à côté qui ne se voient pas. Ah, c'est, c'est un peu la concrétisation, vos chiffres.
Ah, oui, alors.
Parce qu'il y a des masses importantes quand même qui ont été consacrées aux entreprises.
C'est ça qui est intéressant. On a fait un petit tableau et on regarde ce qui s'est passé entre 2012 et 2018. Et par exemple, il y a la taxe sur le foncier bâti, qu'on connaît bien. Mmh. Et puis il y a la taxe, la TICPE, qu'on connaît bien aussi avec les gilets jaunes. La CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui a remplacé en partie la taxe professionnelle, etc., etc. Toutes ces taxes ont énormément augmenté ces dernières années. Alors, ce que pourrait répondre Bercy, c'est que, en fait, c'est pas notre faute parce qu'il y a beaucoup de taxes qui sont prélevées au niveau des collectivités locales. Donc nous, on a regardé taxe par taxe, cotisation par cotisation, et en réalité, c'est vrai que souvent, il y a des taxes qui vont vers les collectivités, mais il y en a peu sur lesquelles elles ont un vrai pouvoir de taux. Par exemple, les taxes foncières, c'est très intéressant les taxes foncières, parce que ces dernières années, c'était voté au Parlement l'évolution de la base cadastrale. Je ne sais pas si vous en souvenez, on a dit d'ailleurs que cette évolution avait été très très dynamique hein, sur les derniers budgets votés par ce gouvernement. Donc, bah, ça fait mécaniquement augmenter la recette, et pas que pour les ménages, parce que les ménages payent des taxes foncières, mais les entreprises aussi payent des taxes foncières. Donc, bon an, mal an, on voit que les taux sont augmentés, les bases sont un peu modifiées et qu'à la fin, ben, ça fait plus à payer pour nos entreprises. Mais ça, on n'en parle pas tous les jours à la radio et à la télé. Donc, on parle beaucoup du CICE et du pacte de responsabilité. Mmh. Et pendant ce temps-là, il y a toutes ces petites taxes dont on ne parle pas, qui, elles, augmentent. Et on ne peut pas dire que ce soit les collectivités locales qui soient responsables, parce que, par exemple, sur la CVAE, le pouvoir de taux des collectivités, il est quasiment inexistant. Hein. C'est fixé au niveau national. Donc, il y a énormément de choses qui se fixent au niveau national. Et en ce moment, je ne sais pas si vous le savez, Edwige, mais par exemple, sur les bâtiments de stockage pour les transporteurs, par exemple, ils veulent les requalifier en bâtiments industriels.
Il y a tout un débat là-dessus.
Et il y a tout un débat là-dessus. Et ça, qui est-ce qui décide ? C'est pas les collectivités locales, c'est Bercy. Donc, on peut dire que toute cette évolution de la fiscalité sous-jacente, qui en fait, ce qu'on dit, c'est que ça a avalé petit à petit toutes les baisses tonitruantes, mais de manière un peu cachée, un peu subtile, eh bien, toutes celles-là, elles sont connues par Bercy. On ne peut pas dire que l'État ne serait pas au courant parce que ce serait quelque chose des collectivités.
En même temps, c'est peut-être aussi qu'elles payent plus d'impôts parce qu'elles vont mieux, donc elles dégagent plus de bénéfices, il y a un peu de croissance. Certaines ont même connu des croissances très significatives. Ça peut venir de ça. Que
mais l'argument, il ne tient pas tellement quand on parle
en pourcentage,
PIB.
En part de PIB.
Mais oui, il ne tient pas. C'est-à-dire que nous, ce à quoi on s'attendait à la Fondation...
Vous avez l'air vous-même un peu surpris de des calculs que vous avez faits, Agnès Verdier-Molinier.
Oui, on est surpris. Oui. Pourquoi ? Parce que en réalité, on a eu tout un débat là cet été, notamment aux universités d'été du MEDEF, où il y a eu un débat sur la fiscalité auquel j'ai participé. Et on s'est penché sur les chiffres pour préparer ce débat. Et moi, je pensais retrouver vraiment les 40 milliards de baisses dont on nous a tellement...
Bassiné les oreilles,
Beaucoup d'ailleurs, dans ceux qui critiquent d'ailleurs tout ça, en disant qu'il y avait eu des cadeaux beaucoup trop importants aux entreprises. Et en réalité, les cadeaux, on ne les trouvait pas. Il n'y en avait pas. Et c'est ça qui nous a donné envie de creuser et de sortir cette étude. Alors après, on peut débattre, on peut se poser la question, parce qu'évidemment, il y a des chiffres sur lesquels il peut y avoir des interprétations différentes, etc. Mais en réalité, on se trouve sur les mêmes chiffres qu'Eurostat. C'est-à-dire là où Eurostat dit qu'on est à plus de 18 points de PIB de fiscalité des entreprises en France, nous, on trouve la même chose en retravaillant les chiffres INSEE. Mm-hmm. Hein. Donc, il y a une vraie convergence. Et en réalité, quand on extrapole jusqu'en 2022, et ce serait peut-être un peu le sujet qu'on va aborder maintenant, eh bien, on ne trouve pas non plus une baisse si importante que ça.
Oui. Le budget 2020, pour vous, il est quoi? Il est insincère par rapport aux entreprises ou pas? Vous avez un peu regardé de près? Parce que on dit, le gouvernement dit, attendez, les entreprises baissent de 1 milliard, et déjà, on vous a beaucoup donné. Donc là, vous êtes en train de nous dire, non, on n'a pas beaucoup donné. Les entreprises disent de l'autre côté, absolument pas. Au contraire, on nous ponctionne plus d'un milliard. Donc il y a une petite bataille entre le MEDEF et Bercy. Vous avez un diagnostic?
Je pense qu'en réalité, en 2020, il n'y aura quasiment pas de baisse, mais pas vraiment de hausse non plus. Donc, on va être à peu près stable. On pourra refaire les calculs quand tout sera voté sur la loi.
Oui, parce que l'argument, c'est-à-dire qu'on a déjà donné beaucoup aux entreprises. Donc, maintenant, on donne aux particuliers.
Oui, mais justement, je pense que c'est l'erreur de ce quinquennat. C'est aussi ça qu'on veut dire avec cette étude. C'est attention, ne croyez pas que le problème de la compétitivité fiscale de nos entreprises a été résolu. En réalité, ils sont arrivés au pouvoir dans ce gouvernement en disant, mais il y a déjà eu énormément de choses qui ont été faites, il n'y a plus besoin de faire énormément beaucoup. Puis, ils ont un petit peu augmenté les objectifs sur la baisse de l'impôt sur les sociétés, d'accord, en passant à 25, l'objectif en 2022. Mais quand on prend toutes les hausses et toutes les baisses, et qu'on les extrapole en 2022. Alors évidemment, on peut dire qu'on ne sait pas encore tout ce qui va se passer jusqu'en 2022. Il peut y avoir encore des nouvelles mesures, etc. Dans un sens comme dans l'autre. Nous, on ne trouve pas 13 milliards de baisse de la fiscalité sur les entreprises. Et c'est pourtant le chiffre qui est annoncé tout le temps, en permanence, par le gouvernement. Donc c'est là qu'on demande...
Et vous avez soumis ça, vous n'avez pas eu le temps, parce que c'est tout frais, tout neuf. Vous n'avez pas eu le temps de soumettre ça à Bercy?
Alors, moi, j'ai eu un petit débat avec Gérald Darmanin sur le sujet, très officiellement, puisque c'était devant l'ensemble des patrons en fin août. La réponse qui a été dite, c'est que finalement, on ne voulait pas voir qu'il y avait des plus grosses baisses que ça, mais il n'y avait pas vraiment d'argumentation sur le fond. J'espère que maintenant, on va avoir une argumentation sur le fond, ligne par ligne, parce que nous, l'addition, on l'a faite, elle est dans notre étude. En 2022, on ne trouve pas 13 milliards de baisses, on trouve, à ce stade, avec tous les éléments qu'on connaît d'ores et déjà, c'est plutôt 2,5 milliards. En intégrant la baisse de l'impôt sur les sociétés, en imaginant que le gouvernement tiendra sa promesse d'être à 25%. Ça,
finalement, c'est un peu une fake news de dire que c'est le gouvernement des entreprises, quoi, que tout a été fait pour baisser la fiscalité des entreprises.
Ouais. Mais
production-là, vous donnez un peu de grain à moudre à ceux comme Louis Gallois, justement, qui prône dans son pacte pour l'industrie une baisse massive des impôts de production. Là,
mais bien sûr.
Regardez, vous avez rien donné, allez-y.
Mais bien sûr, mais le problème de ce quinquennat, encore une fois, c'est que au lieu de se concentrer sur d'abord produire en France et ensuite se poser la question de comment on va faire pour que les ménages puissent consommer plus, ils se sont dit, oula, il y a les gilets jaunes, on n'arrive pas à baisser la dépense publique, on veut pas vraiment le faire d'ailleurs, ça c'est le sujet qui est en face de la fiscalité, c'est évidemment celui de la dépense, et puis finalement, on va tout mettre sur les ménages, les 20 milliards de baisse qu'il y aura effectivement sur les ménages à l'horizon 2022, il aurait fallu en réalité les faire en priorité sur les taxes sur la production de nos entreprises. Pour permettre qu'ensuite on redynamise notre...
Paraît-il que la porte n'est pas complètement fermée, en l'occurrence dans le cas de la discussion du budget 2020. On verra bien.
Alors attendez, mais c'est justement ça aussi l'intérêt de ce genre d'études. C'est de mettre un peu les pieds dans le plat. Et de dire, attention, vous croyez que vous avez fait beaucoup et vous avez fait grand-chose.
Demain, justement, je recevrai le rapporteur du budget, Joël Giraud. Je lui dirai, tiens...
C'est intéressant.
Voilà, lisez l'enquête de l'IFRA.
Parce qu'en plus, ce qui nous a incité à faire ce genre de calcul, c'est Valérie Rabault pour la loi de finances 2017, on le dit dans l'étude, qui avait fait un très très bon
absolument, elle était à ce même micro,
voilà, un très bon tableau où elle mettait impôts sur les entreprises, impôts sur les ménages, et je trouve que c'est dommage que les nouveaux rapporteurs n'aient pas été dans la même veine, dans l'idée de toujours suivre quel est le poids de la fiscalité sur les uns et sur les autres.
Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinié, en tout cas votre message il est passé, et on peut retrouver bien sûr votre enquête sur le site, votre étude, le site de l'IFRA, Fiscalité des entreprises, l'implacable diagnostic. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Dans un instant, c'est quelqu'un dont on parle beaucoup, c'est un peu l'économiste. Est-il encore économiste? On verra ça, c'est Thomas Piketty qui m'en a invité.
BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon.
Notre invité, c'est Thomas Piketty, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et puis professeur à l'École des communes de Paris. Thomas Piketty, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous étiez déjà venu pour votre précédent ouvrage, Opus en l'occurrence. Celui-là, il fait 1132 pages. Capital idéologie au seuil. Et puis, vous étiez venu pour Capital au 21e siècle. C'était en 2013. Et vous en avez vendu. Donc, vous citez toujours le chiffre, mais je le rappelle, parce que c'est quand même impressionnant pour un bouquin d'économie, entre guillemets, 2,5 millions. Donc, ça fait. Et combien aux États-Unis ?
C'est à peu près un quart aux États-Unis, un tiers en Chine, un tiers en Europe, et puis après le Japon, Amérique latine. C'est très réparti sur la planète. Les États-Unis, ils s'imaginent que c'est la seule langue qui compte, mais en fait, les trois quarts des ventes sont dans des langues autres que l'anglais.
En chinois, vous l'avez traduit en chinois ?
Oui, bien sûr. Oui, donc ouais. Ça s'est plus vendu en chinois qu'en voilà. anglais, par exemple.
Celui-là, vous en êtes où ?
Bah là, ça vient de sortir en français. Je crois que le seuil, on est à peu près 100 000 exemplaires d'imprimés, pas encore vendus. Donc, il faut en discuter pour que les gens soient intéressés par tout.
J'ai une question. Est-ce que vous êtes un petit peu le nouveau Karl Marx du 21e siècle, Thomas Piketty ?
C'est une ambiance très différente, quand même, celle de 2019 par rapport à celle de 1860. Donc, moi, ce livre, c'est d'abord un livre d'histoire économique, mais aussi d'histoire politique, parce que j'essaye de montrer comment les différentes sociétés, elles sont toutes à la recherche d'une forme de justice. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune société dans laquelle les groupes dominants diraient « Bon, ben voilà, nous, on est les élites, on domine, et tant pis pour vous. » C'est-à-dire que ça ne se passe jamais comme ça. C'est toujours beaucoup plus sophistiqué. C'est-à-dire qu'il y a toujours un discours pour essayer de justifier le système d'inégalité au service d'un projet d'intérêt général, de développement, de stabilité. Et ces justifications, je veux vraiment dire très clairement, ne sont jamais totalement infondées. Alors après, il y a des parts d'égoïsme.
Alors on va regarder, oui. Puis
mais j'essaye de donner une chance dans ce livre, si vous voulez, j'essaye vraiment d'étudier les régimes inégalitaires du passé, les sociétés d'ordre d'anciens régimes, les sociétés propriétaires du 19e siècle, même les sociétés coloniales, esclavagistes,
en leur donnant
une chance, parce que je pense que chaque discours en fait, à sa part
de
bassesse et en même temps d'idéalisme, d'égoïsme, en même temps de
est-ce
sincérité.
Est-ce que vous vous inscrivez quand même dans la lignée de Karl Marx ? Vous estimez
non.
ou pas ?
Non,
mais est-ce qu'après, je ne sais pas, vos arrière-petits-enfants, on dira, bah, tiens, il y avait Karl Marx et puis il y a eu Piketty ?
Non, mais vraiment, là, moi, j'ai aucun fantasme d'avoir mon buste dans des palais soviétiques. et puis surtout, si vous voulez, on fait pas du tout le même travail parce que 150 ans plus tard, moi, j'ai des sources historiques, notamment sur le XXe siècle. C'est-à-dire que moi, c'est quand même, ce livre est aussi une réflexion sur les enseignements du XXe siècle, les expériences totalement ratées, à commencer par le communisme soviétique, et puis les expériences réussies de social-démocratie, de progressivité fiscale à l'anglo-saxonne. Donc, ce livre, il se nourrit d'expériences historiques
une Bible,
depuis le XVIIIe siècle, XIXe siècle.
Voilà, c'est une Bible un peu de la fiscalité, mais pas
fiscalité,
seulement.
C'est un détail, c'est la question, c'est le régime de propriété, le régime éducatif, le régime fiscal est important, mais c'est un élément d'un tout. Et donc voilà, Karl Marx, lui, il n'avait pas tous ces éléments d'histoire, forcément, il est mort il y a 150 ans.
Alors déjà, vous partez d'un postulat de départ, en fait, c'est qu'on a l'impression que toute richesse est condamnable.
Ça, c'est bizarre que vous l'ayez lu comme ça.
Ouais, moi, je sais pas comment lire votre livre.
Ça, c'est marrant.
Alors, j'ai pas lu tout.
Ah oui,
tout,
là,
tout,
vous
tout.
Avez raté quelques parties. Mais, parce que.
Alors, raté les
non,
parties
je vais vous répondre. Je vais
non,
vraiment,
mais on
moi,
a un peu ce sentiment-là, vous dites.
Au contraire, je veux que tout le monde puisse accéder à la propriété. Donc, c'est exactement
ce que vous dites. Ah oui, mais du coup, on a mis tous ceux qui ont un patrimoine.
Mais pas du tout. Je dis juste que si quelqu'un a 1 milliard et qu'il lui en reste que 100 millions ensuite, ça laisse quand même la possibilité pour avoir des projets. Et que cette conception monarchique de l'économie, où une seule personne devrait, parce qu'il a eu une bonne idée à 30 ans, pouvoir seul avoir 100% des droits de vote à 50 ans, à 70 ans, à 90 ans, c'est une conception qui n'est pas du tout adaptée à notre époque, qui est une époque où il y a des niveaux d'éducation, de formation comme on n'a jamais eu, et donc où il faut une circulation du pouvoir. Donc moi, ce que je veux, c'est faire circuler le pouvoir, la propriété, et que tout le monde puisse accéder à la propriété. Donc c'est vraiment le contraire absolu de ce que vous dites. C'est simplement, au lieu de se concentrer sur la propriété pour quelques-uns, avec une très grande concentration, mais tout ça, si vous voulez, ces conclusions, moi je dirais que chacun se fasse son idée sur la base des expériences historiques. C'est-à-dire, ce livre, c'est d'abord un livre d'histoire, c'est-à-dire qu'il essaye de revisiter des expériences historiques depuis la Révolution française, le 19e siècle, le 20e siècle. Il revisite notamment les périodes de très forte réduction des inégalités qui ont eu lieu au 20e siècle et qui ont été, dans leur ensemble, un immense succès.
L'histoire coloniale, l'histoire de l'esclavage aussi. Enfin,
oui,
c'est intéressant parce que vous revisez, puis vous avez reprêté des traits penchés sur l'Occident. Ce livre, vous parliez de l'ensemble de la planète, de l'Inde, de la Chine, de toutes les régions.
Oui, je pense que j'ai beaucoup de mal à parler des chapitres sur l'Inde et la Chine dans la discussion en France. C'est vrai que ça n'a pas l'air d'intéresser beaucoup de monde. c'est dommage parce que je pense qu'il y a énormément de choses à en apprendre, et en particulier l'Inde, c'est l'expérience d'une fédération démocratique de grande taille, dont il y a beaucoup de choses à apprendre, y compris vue d'Europe. La structure des inégalités en Inde a été impactée par le
colonialisme britannique. Mais vous savez bien pourquoi, Thomas Piketty, c'est que tout le monde s'interroge pour savoir si le capitalisme et qu'il existe aujourd'hui, il est mort ou pas. Donc vous voulez
Ce qui va se passer en Inde et en Chine, vous savez, c'est peut-être plus important que ce qui va se passer entre le Luxembourg et Paris. Hein.
Oui, donc, le capitalisme, c'est pas que le Luxembourg et Paris.
Oui, mais voilà, moi j'essaye effectivement dans ce livre de décaler le regard un petit peu, parce que je pense qu'il y a des enseignements à apprendre. Bon, par exemple, pour vous donner un exemple, en Inde, il y a tout n'est pas à apprendre évidemment, mais il y a eu des mécanismes pour favoriser l'accès à l'enseignement supérieur des classes sociales historiquement défavorisées, discriminées, dont on a beaucoup de choses à apprendre, parce que la question de la justice
notamment
éducative...
Notamment à cause de l'innovation, parce qu'on sait que les Indiens, ils sont justement, on les retrouve partout dans le monde entier,
et on les retrouvera de plus en plus. Je pense qu'à terme, dans les décennies qui viennent, l'Inde aura une importance pour nous tous, sans doute même supérieure à celle de la Chine à terme. Et donc, j'essaye de montrer comment chacune de ces trajectoires historiques a été influencée par les autres, et ce qu'on peut en apprendre comme expérience positive.
Est-ce que vous êtes un économiste, Thomas Piketty? J'ai dit tous vos titres avant, hein, donc si je vous pose la question, c'est parce que vous appuyez sur une base de données énorme, avec 100, que vous citez et vous recitez, qui est avec 100 chercheurs autour de vous. Mais en même temps, vous dites qu'il y a un côté très intuitif, parce que moi-même, je suis influencée, j'étais sans doute un peu déterminée par ce que je suis, d'où je viens, par une dimension personnelle. Il y a un côté quand même très qualitatif dans ce que vous dites, dans vos propos. Je veux dire, c'est pas que l'économie pure.
Qualitatif de haute qualité, vous voulez dire?
Mais forcément. Non.
Que voulez-vous dire par qualitatif?
Non, forcément.
Bon, écoutez.
Alors, moi, donc il y a un côté très rationnel, l'économie, mais il y a un côté aussi Alors,
je ne sais pas, ceux qui voient des aspects irrationnels, je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup lu, mais en tout cas, moi, si vous voulez, c'est d'abord un livre...
Sans doute mon regard est aussi déterminé par ma trajectoire personnelle, plus encore que je ne l'imagine.
Oui,
dans la conclusion, j'ai ces mots,
en même temps pour dire quelques lignes plus loin, que moi, ce qui m'a fait évoluer mes conceptions depuis les années 90, où j'étais beaucoup plus libéral, je dois dire, que je suis devenu depuis 20 ans. Et ce qui a fait évoluer mes conceptions, je crois, ce sont d'abord mes travaux historiques sur l'évolution des structures inégalitaires dans les différents pays, mes recherches historiques. Après, moi, dans ma famille, j'ai des personnes qui étaient plutôt très à droite, d'autres qui étaient plutôt très à gauche. Les uns et les autres étaient très sympathiques, et il y a énormément de choses d'apprendre. Bah, moi, je vous dis, mes conceptions ont évolué. C'est-à-dire que j'étais plus libéral dans les années 90. Je crois que comme beaucoup de personnes, j'étais marqué par l'échec absolu du communisme soviétique. Donc, comme étudiant, moi, j'ai eu 18 ans en 89, j'en ai 48 maintenant, donc il s'est passé 30 ans depuis 1989. C'est vrai que dans les années 90, mes voyages de jeune étudiant en Russie, dans les pays ex-communistes, et ce désastre absolu qui était ce système, m'ont amené, et beaucoup de personnes avec moi, à pousser le balancier
complètement... Vers la gauche. Aujourd'hui, vous êtes un économiste de gauche, plutôt assez à gauche.
Non, mais là vous imprimez des catégories. Moi, mon analyse, c'est plutôt mon analyse du système économique. Mmh. Et donc, je pense juste que ce qui s'est passé après la chute du mur a conduit beaucoup de personnes à aller beaucoup trop loin. Et surtout, beaucoup de pays à aller beaucoup trop loin. Donc, prenons l'exemple de la Russie poutinienne. C'est un pays où, maintenant, il n'y a plus aucune forme d'impôt progressif sur le revenu. C'est-à-dire, l'impôt sur le revenu, c'est 13%. Que vous ayez 1 milliard de roubles de revenus ou 100 roubles de revenus. Même Trump... Il n'ose pas aller aussi loin. C'est-à-dire que même Trump, ils se sont obligés de dire, bon, on va faire 5% sur les bas revenus, 25-30% sur les plus revenus. Les démocrates, vous avez remarqué, maintenant proposent de revenir à 70-80%
sur les plus revenus. Une partie des démocrates, hein, quand même.
Une très grande partie qui est vraiment en passe d'être la majorité.
Un peu très bas. Hein.
D'être la majorité. Et donc, tout ça pour dire que Trump, il aimerait bien faire le truc de Poutine avec un impôt flat tax à 13%, mais pour l'instant, ça ne fait pas partie des choses, disons, admises. De même, Trump a voulu supprimer l'impôt sur les successions, mais même les Républicains l'ont retoqué là-dessus. Alors qu'en Russie, et en Chine, qui se dit communiste, imaginez-vous, vous n'avez aucun impôt sur les successions. Donc vous commencez par privatiser.
C'est-à-dire que tout est à l'étranger.
Vous l'autorisez. C'est un choix d'un système légal où vous autorisez le contournement complet du système légal, effectivement, par des paradis fiscaux. Vous commencez par privatiser 70% du capital au profit de personnes proches du pouvoir. Et ensuite, vous transmettez ça sans aucun impôt sur les successions. Hong Kong, puisqu'on en parlait dans l'actualité ces derniers temps, Hong Kong, c'est un pays c'est le cas unique d'un pays qui est devenu encore plus inégalitaire après être passé sous la coupe d'un régime communiste. Ils ont supprimé l'impôt sur les successions à Hong Kong, après à rejoindre le régime communiste. Donc, si vous avez une fortune à transmettre en Asie, si vous croisez quelqu'un comme ça,
il y en a quelques-uns,
il faut mieux aller mourir et transmettre sa fortune en République populaire de Chine que à Taïwan capitaliste ou Corée du Sud capitaliste ou Japon capitaliste où l'impôt sur les successions atteint 50% et a même été porté à 55% au Japon l'an dernier, qui est pourtant pas un pays qui a une culture gauchiste très marquée. Donc le fait que les pays post-communistes en soit arrivé à ce niveau de
oui, alors justement,
qu'aucune tentative, ça montre l'ampleur de la thèse que je défends dans le livre. C'est-à-dire que vous avez des grands retours de balancier idéologiques qui vont souvent trop loin, comme vous voyez sur cet exemple, je crois.
D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, je sais pas si on a, on vous écoute, on vous regarde, il y a trois points, je vais pas me formaliser, qu'il faut retenir de votre livre. C'est quoi?
Alors, peut-être le point
principal... Parce qu'on entend tous, au contraire, tous les économistes ont envie de débattre avec vous, etc. Moi, je voudrais qu'on ait vraiment les 3-4 points. Voilà, Thomas Piketty, il pense que quoi sur la fiscalité du capital, mais aussi sur le capital et l'idéologie. Pas
oui,
seulement.
On va parler de capitalisme en général. Peut-être la leçon la plus importante du livre, c'est que finalement, la réduction des inégalités a été plutôt un très grand succès au XXe siècle. C'est-à-dire qu'il y a un mouvement de fond qui commence à la fin du XIXe siècle, qui s'accélère après les guerres mondiales, après la crise des années 30, mais qui conduit entre 1900 et 1980 à une très forte réduction des inégalités de revenus, parce qu'il y a une augmentation de la mobilité sociale, une augmentation de la dépense publique en matière d'investissement éducatif, et que c'est tout ça qui a permis beaucoup de prospérité et une croissance extrêmement forte comme on n'avait jamais vu avant, avec une forte réduction des inégalités par rapport au 19e siècle. Depuis les années 80-90, ce mouvement s'est interrompu et je pense largement pour des mauvaises raisons et je pense que ce mouvement va reprendre parce que, dans le fond, comme je disais tout à l'heure, dans une société très éduquée, avoir une circulation du pouvoir de la propriété, essayer d'impliquer le plus grand nombre dans les décisions économiques, je pense qu'il y a une certaine logique.
Oui, c'est un facteur positif.
Oui, d'accord. Mais sauf que depuis les années 80-90, on a eu tendance à suivre une évolution différente pour deux raisons. La première, c'est, comme j'ai dit, l'effondrement, l'échec dramatique du communisme soviétique, du maoïsme aussi, qui a conduit à ce retour de balancier très fort. Okay. L'autre raison, ça a été le mouvement reaganien dans les années 80. Donc, Reagan, dans les années 80, il arrive avec un discours qui aurait pu être plausible, qui aurait pu marcher. Moi, j'essaye de donner une chance à chaque discours, qui est de dire les États-Unis ont été trop loin dans la réduction des inégalités, avec un taux d'imposition de 70, 80, 90% depuis les années 20, ensuite sous Roosevelt, ça continue jusqu'aux années 80. Donc Reagan, il arrive avec un discours en disant ça va pas du tout, moi je vais vous diviser ça par deux, en gros avec 30% de taux sur les plus hauts revenus, et vous allez voir ce que vous allez
mesure
voir.
Majeure.
Vous allez avoir plus de milliardaires, mais aussi plus d'innovation, plus de croissance, et vous allez voir les revenus et les salaires vont croître comme jamais vous avez vu. Qu'a-t-on vu?
Voilà. Parce que maintenant, qu'a-t-on vu, parce qu'après, il y a le deuxième et le troisième point.
On est 30 ans plus tard, et ce qu'on a vu dans les 30 années qu'ont suivi les réformes reaganiennes aux États-Unis, c'est en fait que la croissance a été divisée par deux. Mmh. C'est-à-dire que la promesse de dynamisation de la croissance n'a pas eu lieu. Et ça, c'est vraiment important de le prendre en compte, parce que sinon, vous ne pouvez pas comprendre les réactions qu'on voit aujourd'hui dans le paysage politique américain.
Bah, qui est très éclatée, de toute manière.
Qui sont en gros de deux sortes. C'est-à-dire, vu l'échec du message reaganien, vous avez soit le discours trumpiste qui est de dire...
Donc, vous en déduisez quoi?
Je vais vous décrire les deux réactions qui se produisent je vais vous dire celle dont je me sens le plus proche. Vous allez deviner assez vite, je crois. Il y a la réaction trumpiste qui consiste à dire bon, on va continuer les baisses d'impôts de Reagan, mais par ailleurs, le problème, ce sont les Mexicains, les Chinois, tous ces étrangers qui volent le dur travail des Blancs américains, etc. Donc vous voyez, là, ça tombe quand même dans le tribalisme. Ça devient quand même assez ennuyeux. C'est-à-dire, c'est très dangereux. Et pourquoi ils ne se contentent pas d'un discours simplement de libéralisme économique comme Reagan dans les années 80? Parce que ça n'a pas marché du point de vue de la dynamisation.
Donc, qu'en pense Thomas Piketty comme enseignement?
Il y a un autre discours dont je me sens effectivement beaucoup plus proche, qui est le discours des démocrates américains qui disent il faut revenir à une politique de réduction des inégalités, comme les États-Unis l'ont mené en fait des années 1910-1920 jusqu'aux années 70-80 avec un très grand succès. Parce que je veux rappeler qu'entre 1950 et 1990, aux États-Unis, le taux appliqué aux revenus les plus élevés est en moyenne de 72%. La croissance...
Oui, enfin, la croissance du temps de Reagan, elle était quand même au rendez-vous, elle était quand même là. J'ai pas le chiffre exact,
Je vais vous les dire.
Oui, allez-y.
Voilà,
en même temps, moi, j'aimerais le deuxième point aussi.
Non, mais de 1950 à 1980 ou de 1950 à 1990, vous avez en moyenne 2,2% de croissance du revenu national par habitant aux États-Unis. Si vous prenez la période 1990-2020, vous êtes à 1,1%. Donc, ce sont des périodes très longues. Et la période de 1950-1990, c'était plutôt la norme dans l'histoire américaine. Enfin, ça avait un peu augmenté par rapport aux périodes précédentes. Disons, ce qu'on peut dire, si on regarde cette histoire, mais moi, j'invite chacun à apporter ses propres éléments, ses propres...
C'est ça qui est intéressant. Mais vous êtes là, je voudrais bien...
Oui, mais sur ces questions, si vous voulez, moi, mon but, c'est pas, c'est, c'est, c'est d'essayer de voir si on peut avoir une discussion apaisée sur la base de ces expériences historiques. Parce que ce qui est très embêtant, c'est que dès qu'on se met à parler de ces expériences historiques, qui sont des expériences précises, notamment de progressivité fiscale aux États-Unis, les gens vous disent « Ah, mais non, c'est le bolchevisme, c'est Cuba. » Alors, on leur dit « Mais non, c'est les États-Unis. » Là, je vous parle des États-Unis des années... Et ils arrêtent. Tu vois, il y a une espèce d'incapacité et d'une partie des économistes, d'ailleurs.
On est d'accord,
les économistes de banque que les économistes universitaires.
Qu'est-ce que vous préconisez en fonction de ça, Tommy Piketty?
Comme je viens de vous le dire, l'approche qui est défendue, par exemple, actuellement par beaucoup de candidats démocrates aux États-Unis, de rétablir la progressivité fiscale à des niveaux qu'on a observés dans le passé, me semble être une bonne orientation. Mais ça ne suffit pas, parce que y a la question qui est devenue encore plus centrale que tout ça, qui est liée en termes de financement, c'est la question de la justice éducative. C'est-à-dire, ce que je montre dans le livre, c'est que, la tertiarisation de la question de l'enseignement, avec le fait que la question de l'accès à l'enseignement supérieur est devenue très importante, et c'est accompagné aux États-Unis, mais aussi en Europe, avec une très grande inégalité d'accès dans les financements de l'enseignement supérieur.
Il y a des chiffres qui sont contestables, parce qu'il y a 42% justement, 42% des Américains qui ont accès à l'école et aux universités.
Oui, mais il en reste 60%.
Mais d'accord, mais c'est plus que la France. C'est plus que la France ou c'est 30%.
C'est plus vrai. C'était vrai 15 ans avant ça. Mais là, actuellement, on est à peu près sur les mêmes taux d'accès. Puis vous savez, les deux premières années de l'université, des moins bonnes universités, des moins bien financées aux États-Unis, c'est pas toujours plus élevé que le lycée en France. Donc, mais ce qui est certain, c'est qu'en termes d'inégalité d'accès, les États-Unis, comme la France d'ailleurs à un degré moindre, ne brille pas. C'est-à-dire qu'on a
un
niveau d'inégalité d'accès à l'enseignement. Et surtout, on a, je pense, si on veut essayer de comprendre l'abaissement de la croissance depuis les années 80-90, le facteur numéro un, je pense, c'est la stagnation de l'investissement éducatif. Il y a quelque chose de très très paradoxal. C'est-à-dire, si vous prenez combien on investit dans l'éducation au sens large, primaire, secondaire, supérieur, sur longue période. C'est important pour l'économie, la productivité.
Mais parce qu'il se passe quelque chose en ce moment, il y a un phénomène, c'est qu'on voit bien que notamment tous ces grands capitalistes que vous dénoncez quelque part, qui ont fait des grandes fortunes sur l'innovation, ils innovent beaucoup avec les MOOC. On voit bien que en ce moment il se passe une révolution qui vient du privé.
Ils innovent, c'est formidable. C'est juste que la croissance a été divisée par deux. Donc l'innovation, c'est super. Mais si ça se transmet à aucune croissance, il y a un moment à quoi ça sert.
C'est un point important.
Donc je crois qu'il y a un moment, moi je trouve ça super de discuter de comment les milliardaires ont dopé l'innovation, etc. Mais si vous avez la croissance divisée par deux, si on pouvait avoir un débat un peu. À nouveau, il y avait une promesse réganienne qui était de dire vous allez voir ce que vous allez voir, les revenus, les salaires, parce que c'est à ça que ça sert la croissance, ça va croître comme vous n'avez jamais vu. On ne l'a pas vu. Donc ceux qui continuent de penser que ce récit réganien a fonctionné.
C'est vraiment la croissance. En fait, elle n'est pas du tout suscitée ni par l'innovation ni par la richesse. Au contraire.
Mais l'innovation, elle a besoin d'éducation. Oui. C'est-à-dire qu'une des leçons de l'histoire que j'essaye de décrire, d'analyser dans ce livre, mais après, à chacun d'en tirer ses propres conclusions, mais c'est que ce qui fait la prospérité, c'est beaucoup plus l'éducation et une certaine égalité dans l'éducation. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une petite élite qui a formé super bien à Harvard. Il y a besoin que la population dans son ensemble ait accès à un investissement éducatif de qualité. C'est que finalement, dans l'histoire, c'est beaucoup plus l'éducation, l'égalité qui fait la prospérité que la sacralisation de l'inégalité, de la propriété et de l'hyper-concentration du pouvoir, qui est quand même très paradoxal. C'est qu'on a beaucoup de nos techno-milliardaires qui nous disent qu'ils croient dans l'horizontalité, etc., la circularité. Mais bon, au moment de partager le pouvoir, ils pourraient distribuer des actions là, toute leur entreprise, mais sauf qu'ils veulent garder le contrôle. Je leur reproche pas. Enfin, c'est humain de considérer que soi-même, on est plus doué que les autres pour prendre les décisions tout seul jusqu'à des âges très avancés. Bon, sauf que, du point de vue de l'intérêt général et du point de vue des expériences historiques dont on dispose, une plus grande circulation du pouvoir et de la propriété, comme ce qui a été fait en fait au XXe siècle, pendant l'essentiel du XXe siècle, par rapport à l'économie d'avant 1914, ça a été cette circulation du pouvoir et de la propriété.
Dernière question qui aurait pu être ma première, mais pourquoi idéologie ? Pourquoi capital ? C'est pour ça que j'ai commencé en disant vous êtes Marx. Hein. Pourquoi capital et idéologie ? Que vient faire l'idéologie ? Et vous avez une minute pour répondre, Thomas Piketty.
C'est parce que toutes les sociétés humaines ont besoin de trouver des justifications à l'organisation de leur économie. Ils sont à la recherche d'une économie juste. Ce sont des idéologies dans le sens où ça ne pourra jamais être des certitudes scientifiques. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais personne n'aura la vérité ultime sur la propriété juste, le régime éducatif parfait, le système fiscal idéal, le régime de frontières parfait. Il y aura toujours du conflit. Et en même temps, les différentes sociétés humaines ne pourront jamais s'empêcher d'essayer de trouver des justifications, des constructions qui ont toute leur part de vérité. Donc moi, j'essaye, je prétends pas, à la fin du livre, évidemment, j'essaye de tirer mes conclusions. Oui, je décris un système économique beaucoup plus participatif, décentralisé que le capitalisme hyper concentré actuel. Maintenant, d'autres personnes peuvent tirer d'autres conclusions, ça me pose aucun problème, mais je veux juste un message. Ce livre, il est très lisible. Ça permettra à chacun de préciser ses idées, parce que voilà, cette histoire, c'est quand même une histoire commune. Ça parle des États-Unis, ça parle de la Suède, ça parle de l'Inde, ça parle de la Chine, ça parle de l'Afrique, ça parle de l'Amérique latine, de la France. Ça comporte 169 graphiques et tableaux, parce que je pense qu'il faut d'abord un matériel empirique, historique, pour baser ces discussions. Les conclusions que j'en tire, moi, me semblent les plus raisonnables, évidemment, mais si d'autres en tirent d'autres conclusions, je n'ai aucun problème. Le désaccord politique et idéologique fait partie de ces débats.
Et je vous confirme, parce que je peux vous dire le nombre d'économistes, d'autres économistes qui m'ont dit, tiens, tu reçois Piketty, alors voilà les questions que tu pourrais lui poser. En tous les cas, on sent que vous avez suscité un débat, et c'est ça que je trouve intéressant. Et comme vous dites, votre livre, il est épais, mais écrit tout petit. Il n'y a carrément pas de paragraphe, mais en tous les cas, il se lit très bien. Merci beaucoup.
Merci.
Thomas
Merci
Piketty, Capital et idéologie, et donc c'est publié au Seuil. Voilà, c'est la fin de l'Orage. On se retrouve bien sûr demain à 8h15, et dans l'Orage. Bonne journée.